Priorité Santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous sommes à Montpellier pour la 7e conférence internationale francophone sur le VIH et les hépatites. Et on a justement aujourd'hui choisi de parler des hépatites, hépatites B et C. On en parle 5 personnes autour de cette table. Professeur Georges-Philippe Pajot, qui est hépato-gastro-entérologue au CHU de Montpellier. Le docteur Maud Lemoine, qui est hépatologue à l'Imperial College de Londres. Le professeur Maroum El-Filali, qui est chef du service des maladies infectieuses du CHU Inbrook à Casablanca. Au Maroc, le docteur Moussa Sédi, qui est chef du service des maladies infectieuses au CHU de Fan à Dakar, et le professeur Alain Attia, qui est du CHU de Yopougon à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et je sais que vous êtes déjà nombreux à appeler, on va vous donner la parole au 33 1 84 22 75 deux fois. Professeur Pajot, juste avant les informations, vous nous avez parlé de ce nouveau traitement contre l'hépatite C, traitement assez révolutionnaire, vous l'avez dit, qui vont permettre de pouvoir guérir plus de 90% des patients, un traitement plus, enfin des traitements, vous l'avez dit d'ailleurs, plus simple, plus court, avec moins d'effets secondaire. Le problème, c'est le coût de ces traitements. Je l'ai dit en début d'émission, hein. 56 000 euros en France, le traitement de, c'est quoi, 12 semaines, c'est ça?
Tout à fait. On est malheureusement là un peu dans le domaine de l'indécence avec les prix de ces médicaments. Ce dont vous parlez, c'est un de ces médicaments tout seul, administré pendant 12 semaines. Donc, vous l'avez dit, 56 000 euros, c'est le prix actuel. On ne sait pas ce que sera le prix définitif. Mais si on va plus loin, et nous savons que nous ferons des associations thérapeutiques, si je prends celui-ci plus un autre qui est actuellement en cours de développement et qui aura bientôt son autorisation de mise sur le marché, la combinaison des deux, en fonction des posologies, on peut dépasser les 1 000 euros de traitement quotidien. Ça veut donc dire que cet enjeu financier, il se pose dans des pays avec une protection sociale comme la France, mais le déséquilibre existe déjà en Europe, et que dire du déséquilibre Nord-Sud? Donc je reprends ce terme parce que pour moi il est important, on est un peu dans une indécence financière et il faut qu'on se batte tous pour essayer de faire progresser cela.
C'est ça, donc indécence financière même pour les pays du Nord, c'est-à-dire c'est même cher pour les pays du Nord, et alors évidemment pour les pays du Sud très compliqué. Docteur Maud Lemoine, à partir de là, on va faire un tour de table, on fait quoi, on fait comment?
Donc aujourd'hui, bien évidemment, les pays du Sud ne peuvent absolument pas supporter le coût de ces traitements. Les négociations sont en cours avec l'industrie pharmaceutique. Un pays exemplaire en termes de lutte contre l'hépatite C, c'est l'Égypte. Donc l'Égypte, c'est le pays le plus endémique au monde, hein, pour l'hépatite C. Et l'Égypte a su négocier extrêmement bien l'accès d'abord à la bithérapie Pegylé, qui est l'ancien traitement. Et là, l'Égypte a également négocié avec Gilead, qui est l'industrie pharmaceutique qui produit une des excellentes nouvelles molécules contre l'hépatite C, et a permis de faire baisser le prix à $300 par mois, ce qui reste énorme, mais c'est un début.
$300 par mois.
Donc pour 3 mois de traitement.
$900.
3 à 6 mois de traitement. En réalité, les choses sont pas si simples. Mais en gros, c'est quand même une baisse significative. Et puis, il y a des négociations en cours également. Gilead s'est engagé à signer des accords avec une soixantaine de pays à ressources limitées pour diminuer ses prix. On a un projet en cours en Afrique avec le professeur Alain Attia et Moussa Sédi, également Georges-Philippe Pajot, pour tenter de montrer la faisabilité de ces traitements en Afrique subsaharienne. Et on espère avoir le soutien de l'industrie pharmaceutique. Je voudrais juste ajouter un point très bref. Il ne s'agit pas de faire le procès de l'industrie pharmaceutique, même si ces prix sont, à mon sens, scandaleux. Voilà.
Quand vous dites ça, vous dites scandaleux, même pour les pays occidentaux.
Oui, même pour les pays occidentaux. Après, il y a bien d'autres molécules qui sont aussi très chères et sur lesquelles on ne s'arrête même pas. L'industrie pharmaceutique n'est pas l'unique responsable. Le système économique dans lequel le monde évolue, essentiellement depuis 1995, à partir du moment où on a accepté ces fameux accords sur le droit de la propriété intellectuelle en 1995, c'est un système néolibéral qui fait de la santé un objet de marchandise comme toutes les autres. Et cette question, Elle est fondamentale. C'est une question à la fois philosophique et éthique que les médecins devraient, sur lesquelles les médecins devraient s'interroger, et les gouvernements eux-mêmes. Peut-on faire de la santé, donc de l'accès aux soins et aux médicaments, qui est finalement un bien commun, peut-on faire de la santé un objet de marchandisation?
Et vous, médecin, l'économie de la santé, ça vous intéresse? C'est important. J'aimerais bien. Vous venez de parler de l'Égypte. J'aimerais bien du coup qu'on parle du Maroc voisin. J'imagine que tout ça vous intéresse de très près, professeur Maroum El Filali, vous vous demandez un peu, vous, à quel prix? On est en plein dans une conférence, donc il y a aussi des annonces pendant cette conférence, c'est normal, pour justement inviter les gens à participer aux différents symposiums et sessions. Professeur Maroum El Filali, vous, j'imagine bien que vous vous demandez à quel prix vous allez avoir ce traitement au Maroc?
Tout à fait, parce que si on reste sur les prix qui sont actuellement proposés, c'est des prix qui sont complètement prohibitifs. Hein, on n'arrivera à traiter personne avec ces prix. Je voudrais ouvrir une parenthèse ici pour dire que au Maroc, il n'y avait pas de sécurité sociale sauf une marge vraiment infime de la population qui avait une assurance privée. Depuis pratiquement un an et demi, deux ans, un nouveau régime a vu le jour au Maroc, c'est le RAMED, un régime d'aide aux personnes médicalement démunies. Ce régime, pour la première fois, a permis de traiter gratuitement, pris en charge par ce système du RAMED, des personnes ayant une hépatite virale C. Seulement, c'est la bithérapie qu'on connaît, qui est l'interféron pegylé plus la ribavirine. Sur une année, nous espérons arriver à un traitement de 1000 personnes. Alors,
donc c'est déjà une belle avancée.
C'est une belle avancée.
Mais à ce tarif-là, sur le dernier traitement d'hépatite C, on coule votre système de RAMED, c'est ça?
Alors justement, maintenant on se retrouve avec des médicaments qui, à mon sens, sont dépassés, entre guillemets. On aimerait bien avoir autre chose, surtout quand on connaît l'efficacité de ces nouveaux traitements. Et surtout que les patients connaissent l'efficacité de ces traitements, parce qu'on a accès à Internet, on a accès à l'information. Donc quand vous arrivez, vous voyez un patient qui vient vous voir pour un traitement et vous lui donnez un autre traitement que celui qu'il a vu et dont il connaît l'efficacité, je crois qu'en tant que clinicien, nous ne sommes vraiment pas à l'aise.
Et de façon très concrète, est-ce que vous pensez déjà au moins que vous allez réussir à obtenir le même tarif que l'Égypte, c'est-à-dire en gros ce 900 dollars pour 3 mois?
Alors franchement, je crois que ça va être très difficile, mais au moins nous avons un prix de base qui va nous permettre
de négocier.
D'une négociation. Voilà. Donc
mais
à partir
en soi,
de là,
il n'y a pas de raison qu'il soit plus cher pour vous.
Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je crois qu'il n'y a pas de différence énorme, sauf peut-être une différence de prévalence. Mais je pense que si le laboratoire ou les laboratoires imaginent les pays selon, disons, peut-être une cartographie plus large, ils pourraient peut-être concéder des prix qui soient à peu près les mêmes pour les différents pays.
Et alors, que va-t-il en être au Sénégal et en Côte d'Ivoire, docteur Moussa Sédi, pour le Sénégal?
Oui, nous ne pouvons qu'espérer que les négociations aboutissent à la réduction très importante du prix. On a parlé directement du traitement de l'hépatite C, mais c'était bien aussi de commencer par le traitement de l'hépatite B, qui n'est pas aussi accessible qu'on le pense. Pour donner l'exemple du Sénégal, chez les patients co-infectés, ils bénéficient du tenofovir pour traiter l'hépatite B.
Co-infectés avec le sida, c'est-à-dire quand ils sont pris en charge par le sida, du coup, ils ont accès gratuitement.
Ils ont le traitement.
Et les autres?
Mais s'ils sont mono-infectés, ils n'ont pas le traitement.
Bon. Ça, c'est comme une aberration.
Mais on a pu négocier avec Gilead, qui accepte de vendre le produit au Sénégal 100 fois moins cher qu'en France.
100 fois moins cher.
100 fois moins cher, et c'est en cours. Donc, nous espérons qu'avec le traitement anti-VHC, qu'on aboutira
alors,
peut-être
au
même
résultat. Il y a moins de différence, mais moi j'ai quand même une autre question à vous poser, docteur Moussa Sédi. Vous dites, on espère, mais vous, finalement, chef de service des maladies infectieuses au CHU de Fan à Dakar, est-ce que vous essayez de participer à ces négociations, de les influencer, ou je dirais, c'est pas tellement possible pour vous?
Oui, je participe évidemment à ces négociations par l'intermédiaire de la Société sénégalaise de gastro-entéro-hépatologie et aussi par l'intermédiaire de... D'ailleurs, le laboratoire m'a contacté en premier lieu pour me dire cette possibilité. C'est ainsi que, entre personnes prenant en charge ces hépatites, que nous sommes réunis et que nous avons accompagné ce processus qui est très avancé.
Docteur Maud Lemoine, vous vouliez réagir avant qu'on repasse à la Côte d'Ivoire?
Non, juste pour réagir, en Afrique, dans certains pays, et je pense qu'on en est tous témoins autour de cette table, il y a des malades qui nous ont déjà dit plusieurs fois en consultation, si j'étais infectée par le VIH, ma vie serait beaucoup plus simple. Et je me souviens d'un patient en Gambie qui, tous les mois, espérait avoir été infecté par le VIH. Donc c'est vraiment une absurdité qui est insupportable en fait.
Professeur Alain Attia pour la Côte d'Ivoire, où sont les négociations? Elles ont déjà démarré?
Je pense que de façon informel, ça a commencé un peu avec les programmes nationaux de lutte contre les hépatites virales. En Côte d'Ivoire, il existe un programme national de lutte contre les hépatites virales qui existe depuis 2009. Mais j'aimerais insister sur le fait qu'il faut imaginer l'utilisation des organisations sous-régionales pour pouler un peu et mutualiser tous ces patients, par exemple.
Pour être plus fort, pour négocier.
Pour être plus fort. L'organisation ouest-africaine, il existe d'autres en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et orientale, pour faire des négociations groupées et peser plus efficacement.
Et c'est ce qui se fait ou ça ne se fait pas encore?
C'est suscité, mais pour le moment, ce n'est pas encore...
Ça n'a pas vraiment démarré. On a plusieurs auditeurs qui ont envie de vous poser des questions. On a Mamadou qui nous appelle d'Abidjan, justement, en Côte d'Ivoire. Mamadou, bonjour.
Bonjour.
Nous vous écoutons, Mamadou.
Oui, j'avais envoyé un mail à l'époque, il y a quelques mois, pour vous signaler un fait. C'est que j'ai été malade de l'hépatite C et j'ai subi un traitement de 48 semaines au pégétéphiron. Ce traitement était associé à de la ribavirine. Mais mon inquiétude, c'était le coût de ce traitement. Et je demandais s'il n'y avait pas un mécanisme qui permettait aux malades de l'hépatite C d'accéder au traitement.
Et vous, vous avez eu la chance que ce soit pris en charge par votre système d'assurance maladie, c'est ça?
Voilà, oui, c'est la société où je travaille, oui.
Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes guéri?
Oui, je suis guéri, j'ai fait les examens 3 fois déjà. Et bon, j'ai encore un rendez-vous ce mois de mai pour un autre examen, pour vérifier, pour me rassurer. Et ce qui est sûr, au début du traitement, ma charge virale, bon, je ne connais pas trop les termes techniques, mais on disait qu'elle était à 800 000 parties par million. Aujourd'hui, quand j'ai fait les examens, on me dit, bon, absence de détection du VHC. Donc, le médecin m'a expliqué que...
On parle de guérison, c'est ça?
Oui, disons qu'on fait un contrôle 6 mois après la fin de traitement pour parler de réponse virologique prolongée et éventuellement à 1 an. Et on peut considérer quasiment que c'est une guérison.
Mais Mamadou le dit, il a eu de la chance. Il a eu un système d'assurance maladie qui a pu lui prendre en charge. Pour l'instant, j'imagine, dans les patients que vous traitez en Côte d'Ivoire, c'est que ceux qui ont des assurances maladie qui peuvent...
Malheureusement, oui, ouais. C'est moins de 5%. Ouais. Il y a des initiatives qui commencent avec le programme ivoirien de lutte contre les hépatites virales, de financer pour émettre à disposition ces médicaments, puisqu'on n'a que la bithérapie pour le moment. Et donc, mais c'est assez marginal pour le moment. Il y a peu de moyens et donc peu de patients en ont accès.
Et ça, c'est l'ancien traitement. Je voudrais comprendre un deuxième auditeur. On a Jérémy qui nous appelle de Cotonou au Bénin. Jérémy, bonjour.
Bonjour Claire.
On vous écoute, vous êtes en direct dans Priorité Santé.
Oui.
Eh bien, on vous écoute,
bonjour,
Jérémy.
Salut tous les professeurs sur le... Oui, je salue tous les professeurs sur le plateau. Au Bénin, il y a eu dernièrement beaucoup d'émissions radio sur les hépatites. Et on a finalement l'impression qu'il y a une sorte de phobie qui s'installe. Tout le monde est emballé par cette psychose liée aux hépatites lorsque nous les recevons en consultation psychologique. Et quand nous nous sommes approchés des spécialistes, il semble quand même qu'une bonne hygiène de vie, une hygiène du foie, aurait pu aider ces malades-là à mieux gérer la situation. Et on a l'impression qu'un accent n'est pas suffisamment mis sur ces choses.
Alors, on va faire réagir les invités là-dessus. Professeur Pajot, effectivement, est-ce qu'il y a des règles d'hygiène de vie quand on a une hépatite B ou C à respecter en dehors de la question des traitements?
Alors finalement, le mot hygiène de vie, il est un peu connoté, donc je crois qu'il faut faire un peu attention avec ça. Nous, on a un terme médical que je vais essayer de vous traduire, ce qu'on appelle les comorbidités et les facteurs de risque. En d'autres termes, si vous avez une hépatite C, et donc votre foie est déjà attaqué par un virus, protégez-le des autres agressions. Et tout le monde sait que l'alcool, de façon excessive, il est toxique pour le foie. Tout le monde sait que être trop gros, manger trop gras, trop sucré, c'est toxique pour le foie. Donc, ce que nous faisons tous dans nos consultations ici, Nord-Sud, on fait exactement la même chose. C'est chez quelqu'un qui est atteint par une hépatite C, on lui donne des conseils pour essayer de protéger son foie d'autres agressions. C'est ça l'enjeu.
Oui, vous vouliez réagir,
oui.
Docteur Moussa Sidi.
Je voulais ajouter aussi, puisqu'il y a beaucoup de fumeurs, le tabac aussi est un facteur de progression de la maladie.
Vous avez raison de le rappeler.
Et certaines études ont prouvé également le cannabis. qui est peut-être à la mode dans beaucoup de pays.
Partout.
Je voulais juste ajouter cela.
Attention, merci. Effectivement, tabac et cannabis. Juste, on va terminer sur l'hépatite C, parce que j'aimerais bien qu'on parle de l'hépatite B, du vaccin et aussi des traitements. Juste une dernière question, professeur Pajot. Tout à l'heure, là, pendant cette conférence, il y a eu une manifestation des associations, des activistes devant le laboratoire Gilead, qu'on a cité, hein, qui est le premier qui sort ce traitement à un coût très élevé. Il y a quand même une montée en puissance, je dirais, des ONG là-dessus pour essayer de faire baisser, faire pression sur l'industrie pharmaceutique.
Oui, il y a une pression et de toute façon, c'est toujours bien quand la citoyenneté s'exprime. Ce que je voudrais dire finalement au nom des communautés médicales du Nord et du Sud, c'est qu'aujourd'hui, tous les médecins sont extrêmement sensibilisés à ce problème. Il y a la société civile, mais finalement, les médecins qui sont censés être ceux qui savent, ils ne sont pas là que pour prescrire, ils sont là aussi pour faire leur lobbying et donc ils sont très très actifs. Le dernier congrès européen où il y avait 8000 personnes du monde entier, le sujet principal qui était abordé, c'est on ne pourra pas continuer avec ces coûts prohibitifs. Donc vraiment, il faut dire aux auditeurs et à tous les patients que potentiellement nous sommes, que la communauté médicale du Nord et du Sud s'engage pour faire ce lobbying, pour que ces prix puissent baisser, que tout le monde puisse y avoir accès.
Maude Lemoine, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, effectivement, la société civile, lanterne hépatite virale, est encore assez silencieuse quand on compare...
au sida.
Voilà, exactement, l'ampleur de l'expression de cette société civile avec l'épidémie de VIH-Sida. Et donc, il y a vraiment un appel à mobiliser cette société civile. Ce d'autant plus que, comme on l'a souligné, il y a beaucoup de co-infections avec le VIH. Et donc, on a fait énormément de progrès pour l'accès au traitement en Afrique sur le VIH et que ces patients co-infectés risquent de mourir des hépatites virales maintenant. Donc il faut absolument une mobilisation de la société civile, mais aussi des bailleurs de fonds et des grands organismes de santé internationale comme le Fonds mondial, le PEPFAR.
Qui est le programme américain.
Qui est le programme américain et ses agences, on ne les entend pas assez sur ce sujet.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous sommes à Montpellier pour la 7e conférence internationale francophone sur le VIH et les hépatites. On parle effectivement aujourd'hui des hépatites. On a longuement parlé de l'hépatite C. J'aimerais bien qu'on parle de l'hépatite B et du vaccin. Mais j'aurais quand même une question à vous poser qui revient beaucoup chez les auditeurs. C'est est-ce que les hépatites se transmettent par la salive, professeur Pajot?
C'est sûrement une des questions les plus difficiles qui existent. Je pense qu'il faut faire la différence entre la détection de particules virales dans un liquide biologique comme la salive et le fait que ce liquide soit potentiellement contaminant. La salive en elle-même n'est pas contaminante s'il n'y a pas de plaie sanguine associée. Donc le message aujourd'hui, c'est un message de joie, d'amour et de paix. Aimez-vous, embrassez-vous.
Et c'est ça. Non, mais c'est intéressant. C'est très clair comme réponse. C'est pas par la salive, c'est plutôt s'il y a du sang dans la salive, exactement. En gros. Donc non, c'est votre réponse me paraît très claire. Professeur Attia, et oui, s'il y a une plaie dans la bouche, du coup, c'est ça. Attention aux plaies dans la bouche. J'aimerais bien qu'on parle maintenant de l'hépatite B et particulièrement du vaccin, professeur. Voilà, vous levez la main, vous avez raison, professeur Alain Attia. C'est pour vous. À quel moment les enfants sont-ils vaccinés contre l'hépatite B en Côte d'Ivoire?
Alors, il y a un paradoxe. Dans les pays du Nord ou dans les pays à endémicité intermédiaire, la vaccination commence dès la naissance. Et dans les pays à haute endémicité, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ça commence dans les programmes élargis de vaccination à partir de la 6e semaine, puisque la négociation a été faite avec des vaccins combinés. Donc, entre la naissance et la 6e semaine, les enfants ne sont pas du tout protégés. Et donc, stratégiquement, l'une des recommandations, peut-être pour éviter de bousculer le programme élargi de vaccination, c'est de proposer une dose vaccinale monovalente à la naissance, quitte à poursuivre le
vaccin. Professeur, vous êtes en train de me dire que finalement, comme on ne peut pas revenir sur ce programme de vaccination largement financé par les bailleurs de fonds, j'imagine qu'il y a Gavi derrière, on continue là-dessus, mais on va lui donner une dose de plus à la naissance. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Mais enfin, moi, je suis désolée, ça me paraît... J'ai du mal à comprendre ça, Maude Lemoine.
On essaye de mobiliser Gavi. Donc, il y avait une réunion à Genève, à l'OMS, au mois de mars, à la fin du mois de mars. On a été tous assez surpris par la réflexion de Gavi sur la question de la vaccination à la naissance. C'est bien qu'on fait circuler une lettre pour Gavi. Donc, c'est vrai qu'on aimerait bien que Gavi prenne conscience de cette importance. Néanmoins, Gavier a souligné un point important, c'est la mobilisation des gouvernements locaux. Elle est essentielle. Il faut aussi que les gouvernements locaux s'engagent sur les questions des bâtiments.
Mais concrètement, du coup, vous êtes médecin là, qu'est-ce qu'il faudrait préconiser? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut absolument dépister d'abord les femmes enceintes. Elles le sont pas. Alors qu'on le fait en Europe au sixième mois de grossesse. Elles sont d'abord pas dépistées. Si on commençait par dépister ces femmes enceintes, on pourrait déjà proposer d'emblée une vaccination à la naissance, et c'est à la naissance, pas au dixième jour de vie, mais à 24e heure de vie. Alors, il faut souligner qu'en Afrique, les choses sont pas si simples non plus, parce que les femmes n'accouchent pas toujours à l'hôpital, elles accouchent dans des villages, c'est parfois éloigné, elles ont parfois plusieurs heures de route. Donc, il y a des raisons logistiques qui sont complexes, sociales aussi. Par exemple, la Gambie, c'est un pays modèle en termes de vaccination pour l'hépatite B, puisqu'ils ont implanté un grand programme en 1984. Et en fait, en réalité, on a encore des difficultés à vacciner à la 24e heure.
Professeur, je veux bien vous rapprocher du micro, Maroum El-Felali, qu'en est-il au Maroc? On vaccine à quel moment?
Écoutez, au Maroc, la vaccination a été introduite progressivement, c'est-à-dire depuis 92, ce n'était pas dans le programme national de vaccination, mais depuis 99, ça fait partie intégrante de ce programme. Alors, la vaccination, malheureusement, là aussi, ne se fait pas à la naissance. Mais je dirais peut-être que au Maroc, les modes de contamination sont un peu plus retardés par rapport peut-être aux pays d'Afrique sud.
Parce que justement, il n'y a pas la même prévalence entre autres.
Voilà, justement. Je pense que là, ça ne pose pas de gros problèmes. Cependant, il faut, dans certaines situations, en particulier lorsque nous avons dépisté une femme qui est porteuse du virus de l'hépatite B, il faut un peu bousculer ce programme pour qu'on puisse avoir une vaccination précoce.
Moussa Sidi, au Sénégal.
Oui, pour reprendre le terme de Maud, scandaleux. Rien n'est plus scandaleux que de ne pas vacciner à la naissance, parce qu'on sait que l'enfant qui est infecté à la naissance a des risques d'évoluer vers l'hépatite chronique dans plus de 50% des cas.
Et le cancer du foie.
Voilà. Donc c'est très très jeune. Moi, je sais plus si c'était jeune. Dans votre service où je suis passée il y a quelques années avec des cancers du foie chez des jeunes qui ont 30-35 ans.
En général, c'est des jeunes. Moi, je perds des patients de 25 ans, 30 ans, et même des étudiants en médecine. J'ai eu des collègues qui sont décédés en 7e année de médecine. Donc c'est scandaleux, parce que alors que chez les adultes, un adulte infecté, il a 95% de chances de guérir spontanément. Mais un enfant infecté à la naissance, il a plus de 50% de chances.
Bon, mais alors, qu'est-ce que vous faites pour qu'on vaccine à la naissance? C'est scandaleux, alors, d'accord? Vous faites quoi?
C'est comme... tout ce qu'on fait, c'est essayer de discuter avec les politiques. Actuellement, je peux dire que le ministère de la Santé du Sénégal s'est engagé à cette vaccination à la naissance. Donc, cet engagement, on ne l'avait pas obtenu avant. Mais au moins, on a obtenu cet engagement. Maintenant, il reste la mise en œuvre.
Voilà.
Il y a tous les programmes, tous les programmes nationaux de lutte contre les hépatites virales qui commencent à exister dans la plupart des pays au sud du Sahara. Je pense que c'est une bonne.
Enfin, il faut aussi informer la population sur la problématique des hépatites B, parce que c'est très intéressant quand on va dans les villages, dans certains villages, par exemple en Gambie où j'ai travaillé. Alors c'est une bonne nouvelle. Les gens sont très bien informés sur la transmission du VIH/SIDA, du paludisme. Mais dès lors qu'on les interroge sur les hépatites virales, alors là, c'est
plus compliqué. Professeur Pajot, vous voulez rajouter
juste
quelque chose?
Juste un mot, parce que cette conversation est passionnante sur le vaccin. En France, on n'en est pas là. Nous, on en est à continuer sur une polémique indécente sur le risque de maladie démyélinisante du système nerveux lié au vaccin de l'hépatite B. Toutes les démonstrations scientifiques ont été faites. On est dans un vrai blocage sociétal maintenant. Il faut dire et redire qu'on a entre les mains un vaccin anti-cancer, anti-cirrhose, qui change l'histoire naturelle. Et je reprends votre phrase, il est scandaleux aujourd'hui de ne pas protéger des enfants qui vont jouer leur vie.
Un vaccin donc efficace,
peu cher.
Efficace, peu cher, qui n'a pas de sur-effets secondaires prouvés par toutes les études scientifiques faites dans de bonnes conditions.
Pas de danger, c'est vraiment ça que vous dites. Très
pas
important.
De danger et pas de sur-danger. Tout est dangereux. Prendre sa voiture est dangereux. Ce qui est important, c'est de définir ce qu'on appelle un sur-risque. Et aujourd'hui, il faut faire confiance une bonne fois pour toutes aux scientifiques indépendants qui ont démontré qu'il n'y avait pas de sur-risque associé avec ce vaccin.
Donc, important ce vaccin contre l'hépatite B. Il se donne en combien de doses, d'ailleurs, ce vaccin contre l'hépatite B, professeur Attia?
Disons qu'il y a deux schémas. Il y a le schéma raccourci qui se donne à la naissance, et puis avec deux injections à un mois et à deux mois. Puis il y a le schéma classique avec les trois injections et un rappel à un an. Mais les rappels ne sont plus vraiment
Et pour ce qui est des adultes, donc on sait bien que maintenant il y a quand même, ça fait partie du programme de vaccination les hépatites B dans de nombreux pays du Sud, mais les adultes au début n'ont pas fait partie de ça. Qu'est-ce qui se fait? Est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation pour que les adultes se fassent vacciner?
Disons que compte tenu de la prévalence importante des anticorps anti-HBC qui traduisent le contact avec lui, ça me paraît pas pertinent. Il faut plutôt cibler sur des populations à haut risque chez les adultes. Le message, c'est de ne pas demander une vaccination systématique chez les adultes sans bilan préalable, avec au moins des anticorps anti-HBC totaux, pour s'assurer qu'il n'y a pas de contact.
Il nous reste moins de 2 minutes pour la fin de cette émission. Je veux bien un mot de conclusion chacun, peut-être, docteur Sedi.
Oui, pour conclure, je pense aux patients infectés. Il faut lutter pour que les produits soient disponibles pour les malades. Produits contre l'hépatite virale B, la disponibilité n'est pas encore effective. Donc, que dire par rapport à l'hépatite virale C?
Absolument.
Il faut que les associations de patients aussi se mobilisent pour nous aider à gagner ce combat.
On a encore une annonce pendant la fin de ce congrès. Professeur Marhoum El Filali pour le Maroc.
Moi, j'insisterai sur le dépistage, mais un dépistage accompagné d'explications, parce qu'il ne faut pas entraîner une phobie aussi. Donc, à partir de là, je crois que quand on a dépisté, nous avons des traitements. Maintenant, faut-il pouvoir y accéder et que ce soit les traitements les plus efficaces.
Voilà. Docteur Maud Lemoine.
Oui, je suis tout à fait d'accord, mais on a aussi besoin d'outils diagnostiques. Et bon, faute de temps, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi un énorme problème au Sud.
Bien diagnostiquer.
Et on n'a souvent pas les outils en Afrique pour le diagnostic de ces maladies hépatiques. Et la conclusion, c'est qu'il nous faut absolument une mobilisation, bien sûr, des médecins, de la société civile, mais aussi des agences de santé internationale, et qu'elles prennent conscience que les hépatites virales sont aussi un problème de santé majeur en Afrique.
Et ce sera le mot de la fin. Je suis désolée, on arrive vraiment à la fin de cette émission. Merci vraiment beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Demain, on parlera de la prise en charge du sida chez les populations homosexuelles. Merci à Manu Pochez et à toute l'équipe de Priorité Santé qui nous ont permis de réaliser cette émission. Didier Bleu, Assetoussa Maquet, Jeanne Cherquefosse, et bien sûr, à demain.